Passe-moi le relais. Comprendre et anticiper les transformations culturelles en Europe. Un podcast produit par Relais Culture Europe. Les 2 et 3 décembre derniers, le Forum Europe Créative 2025 s'est tenu à Paris. Deux jours de rencontres consacrés à la liberté, à l'engagement et aux récits partagés dans l'Europe de la culture. Pour cette première journée, professionnels de la culture, des arts, de l'audiovisuel et des médias, mais aussi chercheurs et décideurs politiques, se sont retrouvés à la Maison des Métallos. Un temps d'échange pour croiser les regards et interroger les grands enjeux culturels européens. Aude Lavigne, journaliste spécialiste des questions culturelles, a tendu son micro à plusieurs participants.
Comment faire face aux atteintes à la liberté de création en Europe? Le réseau RICET fédère plus de 150 structures culturelles et médiatiques indépendantes dans plus de 30 pays dans une Europe élargie. Laurent Bigarella, coordinateur du réseau, dénonce les nombreuses attaques portées à la culture au sein même de l'Europe et détaille, pour nous, les principaux combats du collectif en matière de défense des acteurs culturels indépendants. Il est question aujourd'hui d'être libre, de garantir les libertés artistiques et culturelles en Europe. C'est le but de ce forum aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que vous observez sur les menaces qui grondent et qui sont bien réelles même?
Oui, qui sont bien réelles, et ce qu'on observe, c'est des schémas qui se répètent, malheureusement. Donc pour ça, j'ai repris un peu une analyse partagée par un juriste qui s'appelle Alberto Alemano, qui a publié dans The EU Observer un peu un guide de comment les acteurs de la société civile sont attaqués partout en Europe. Et donc il décrit plusieurs étapes que je trouvais assez intéressant de reprendre et d'en faire une analogie pour le secteur culturel, parce que ce qui se passe, c'est peu ou prou les mêmes dynamiques, malheureusement. Donc ce qu'on observe, nous, beaucoup, c'est que souvent les acteurs culturels indépendants sont ciblés, sont attaqués pour leur prise de position par des gouvernements, par des autorités locales aussi. Donc on va faire des procès en wokisme, on va délégitimer ces structures culturelles pour leur prise de position. Il y a un narratif qui va se développer aussi beaucoup autour de valeurs traditionnelles. On va attaquer les structures culturelles parce qu'elles défendent des programmations autour des cultures queer, par exemple, ou en soutien à des minorités. Il y a des purges qui sont également menées dans des institutions culturelles avec des remplacements de direction, par exemple, parce qu'on considère que les programmations de telle ou telle institution, théâtre, opéra, ne sont pas en lien avec ce narratif de valeurs traditionnelles. La deuxième étape, c'est de priver de financement les acteurs culturels indépendants. C'est ce qui se passe notamment, par exemple, en Slovaquie, où un de nos membres qui devait venir à Paris pour le forum du Relais Culture Europe n'a pas pu venir parce qu'ils sont en train d'essayer de sauver leur réseau. C'est un réseau qui s'appelle Antena, qui est un réseau de lieux culturels indépendants. Donc en Slovaquie, nos membres parlent vraiment de contrôle d'État, de harcèlement. J'ai repris une citation de Robert Fico, le Premier ministre slovaque, qui dit que l'ère où les ONG dirigeaient ce pays est révolue. Donc ça montre un petit peu qu'il y a une véritable volonté de reprise en main de ce secteur. Se priver de financement, c'est aussi ce qu'on observe par exemple en Allemagne beaucoup, ou en Autriche, avec des structures culturelles qui sont menacées parfois pour leur prise de position de soutien envers la Palestine. Donc il y a cette partie-là, on va dire, on enlève des financements. Ensuite, dans certains pays, on rend les structures culturelles dépendantes de financements extérieurs. On les pousse à s'engager sur des financements européens, par exemple, ou sur des financements philanthropiques d'ONG extérieures, etc. Et parfois, en fait, l'étape d'après, c'est de dire que ces financements extérieurs sont problématiques et qu'ils sont considérés comme des sources d'influence étrangère. Et c'est ce qui se passe, par exemple, en Géorgie, malheureusement, avec cette loi contre les agents de l'étranger qui a été adoptée l'année dernière et qui vise à ficher, finalement, les structures culturelles et les médias qui bénéficient de plus de 20% de financement en dehors de la Géorgie. Le gouvernement en Hongrie a une volonté aussi de l'adopter, en Slovaquie aussi. Et ce qui se passe après, c'est que finalement, on détruit complètement le paysage culturel et associatif d'un pays. Et c'est ce qui s'est passé en Russie, en fait, en 2012, parce que cette loi, elle est clairement d'inspiration russe. Donc voilà, c'est notamment ce qu'on observe, ces dynamiques-là et ces schémas qui se répètent.
Alors, recette avec un point d'exclamation, c'est un terme du numérique. On remet les compteurs à zéro.
Oui, exactement.
Hein ? Le numérique, c'est aussi votre cheval de bataille, et notamment l'éthique du numérique. C'est-à-dire que le numérique, c'est vrai que c'est un grand réseau, finalement, assez opaque, un peu comme les paradis fiscaux. Et vous, à RICET, vous essayez de développer l'idée qu'on peut avoir un numérique éthique, donc il peut y avoir des plateformes, il peut y avoir des moteurs de recherche qui ne seront pas capitalisés ou dirigés par des grandes multinationales qui nous contrôlent indirectement. Parlez-nous de ce volet qui est très intéressant parce qu'il est aussi très actuel.
Nous, on est un réseau de structures culturelles indépendantes et de médias indépendants. Et donc, si on veut parler d'indépendance, il faut prendre la question de l'indépendance à tous les niveaux. Et en fait, ce qu'on observe, nous, en tant que structure culturelle et parmi nos membres, c'est qu'on est dépendant aujourd'hui de ces grandes plateformes numériques. Donc, pour nous, c'était important de nous interroger sur cette dépendance et de voir à la fois quels nouveaux récits on pouvait tisser autour de cette question, mais aussi quelles actions on pouvait mener pour promouvoir d'autres pratiques plus alternatives qui permettraient de nous rendre plus indépendants vis-à-vis de plateformes qui sont souvent pas européennes, qui sont souvent en termes de vie privée, en termes de liberté, on parle de liberté de création, de liberté d'expression, bah en fait là-dessus ces grandes plateformes souvent elles sont problématiques, elles font de l'extraction en fait vis-à-vis de nos pratiques, et donc on a voulu s'interroger là-dessus avec Reset à travers notamment la publication d'un volume de notre atlas. On a publié en 2024 un atlas du paysage culturel indépendant et des médias indépendants, et un des volumes est consacré à ces questions, et on essaye de mettre en avant la façon dont des structures culturelles ou des médias inventent des alternatives sur ces questions. Et en 2025, cette année, on a voulu aller un peu plus loin et on a voulu alerter la Commission européenne sur cette question-là de notre dépendance vis-à-vis des grandes plateformes états-uniennes qui sont très, très peu regardantes en termes de vie privée, de protection des données. On a regardé notamment le programme Europe Créative, qui est le programme qui finance notamment les acteurs culturels en Europe. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant que... Alors certes, il y a déjà beaucoup de critères qui sont mis en œuvre dans ce programme-là, mais le numérique, bien que le numérique en soi est pensé dans le programme, il pourrait être intéressant d'aller un peu plus loin et de se dire qu'on pourrait encourager des structures culturelles en coopération, en consortium, d'utiliser des alternatives numériques. Et donc, c'était tout le sens d'une lettre ouverte qu'on a publiée en avril 2025, avec plus de 20 projets également soutenus par le programme Europe Créative, en alertant la Commission européenne en disant « Peut-être que dans le prochain programme que vous êtes en train d'établir, vous pourriez prendre en compte cette question-là d'un critère ou d'une... De la même façon que sur l'écologie, on encourage la mobilité douce, ben peut-être qu'on pourrait encourager les structures culturelles qui s'aventurent sur le terrain de pratiques plus éthiques dans le numérique, parce que à la fois, c'est intéressant pour notre souveraineté européenne, et puis c'est intéressant aussi en termes de notre indépendance et aussi en termes d'éthique, parce qu'aujourd'hui, les plateformes telles qu'on les utilise, les réseaux sociaux et tous les outils numériques qu'on utilise sont en fait souvent assez problématique en termes de liberté, de vie privée, de protection des données, etc.
Oui, c'est vrai que dans ce contexte, la liberté de création, elle s'oppose dans un deuxième temps. Parce que là, il est réellement liberté de communication.
Exactement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu complètement dépendant d'outils pour communiquer avec des pairs, mais parfois, c'est un impensé. On ne s'en rend même pas compte. On fait des liens de visio avec telle ou telle personne, avec tel outil, parce que c'est devenu un réflexe. Mais le jour où il y a des changements, enfin, on l'a vu avec X par exemple, le jour où Elon Musk a racheté la plateforme et où il y a une migration massive qui a d'ailleurs plus ou moins bien marché vers d'autres plateformes, on s'est rendu compte que le jour où des plateformes qui sont possédées par des personnes problématiques, le jour où il y a ces changements qui s'opèrent, qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui, la plupart des acteurs et des actrices du secteur culturel sont sur une plateforme comme Instagram. Le jour où il y a un changement d'algorithme ou un changement de propriétaire de la plateforme qui va défendre telle ou telle position politique, qu'est-ce qu'on va faire ? On est complètement dépossédé de nos propres communautés. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des alternatives qui existent, qui sont pas forcément... Enfin, qui peuvent être tout simplement la newsletter, par exemple. Des newsletters où sont des outils décentralisés, où on peut communiquer entre une adresse X ou une adresse Y sans passer par un canal qui centralise tout. Donc ça, c'est peut-être des pratiques que nous, on essaie en tout cas de promouvoir et de pousser au sein de notre réseau pour essayer de voir comment, quelles alternatives sont plus éthiques à utiliser.
Alors, ce sera la dernière question, Laurent Bigarella. Comment faire qu'on puisse écouter toutes les demandes locales et en même temps les coordonner dans un mouvement européen ?
Ce qui le permet, c'est que de fait, quand des membres adhèrent à un réseau comme Reset ou il y a beaucoup d'autres réseaux qui existent, ils ou elles adhèrent déjà au discours produit par cette plateforme ou par ce réseau-là. Je pense qu'il y a déjà un accord, un alignement en termes de valeurs et de vision qui s'établit à cet endroit-là. Au fur et à mesure qu'on avance avec le réseau, on se rend compte qu'il y a des intérêts très différents d'un acteur à un autre. On a des membres au Royaume-Uni qui poussent par exemple pour une réintégration du Royaume-Uni au programme Europe Créative. On va avoir une membre en Macédoine du Nord qui, elle, dit que nos propositions, elles sont trop axées sur l'Europe de l'Ouest. Donc en fait, c'est un mélange de tout et je pense que le rôle d'un réseau, c'est en tout cas, nous sommes un réseau transsectoriel avec Reset. Donc, notre rôle aussi, c'est d'activer plusieurs leviers de plaidoyer. Ces leviers qui sont complémentaires, qui ne s'excluent pas les uns les autres. Et on essaie de composer voilà, un discours qui porte. Et je pense que nous, la raison finale, ça reste de comment faire en sorte que ce secteur culturel indépendant, qui recouvre en fait énormément de réalités, c'est pour ça que c'est possible d'agréger plusieurs propositions dans cette même plateforme, c'est de faire en sorte que ce secteur culturel indépendant soit mieux reconnu, mieux entendu, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est un peu aux abonnés absents en termes de reconnaissance, même si aujourd'hui, nous, avec Reset, on a quand même davantage de dialogue avec la Commission européenne, avec le Parlement européen, etc. On doit être autour de la table, c'est le cas aujourd'hui, mais il faut qu'on le soit encore davantage, parce que sinon, il y a d'autres acteurs qui parlent à notre place. Ça peut être des institutions, et c'est très bien, il faut que les institutions soient reconnues pour leurs actions, ou des grands groupes privés qui ont aussi leur place et leur rôle à jouer, mais on doit, nous, en tant qu'indépendants, être au milieu de la table, autour de la table en tout cas, pour faire valoir nos intérêts.
Passe-moi le relais. Un podcast produit par Relais Culture Europe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.relais-europe-culture.eu.